Bonjour, bienvenue. Les archives du rire vous suggèrent un grand voyage. On va se rendre de l'autre côté de l'Atlantique afin de découvrir l'humour au Québec. À la fois inspiré par les grandeurs de l'Amérique et la culture francophone, le Québec offre un humour à part. Les nouveaux humoristes étaient très influencés par les ligues d'improvisation et depuis les années 80, les humoristes éclataient grâce au festival Juste pour rire à Montréal, initié par un grand passionné, Gilbert Rozon.
S'il y a un américanisme dans notre festival, bien sûr, oui. Parce qu'on est en Amérique, ça serait assez incontournable comme situation. Mais il y a un peu de l'européanisation aussi. Est-ce que ça se dit, c'est de l'européanisme? Ça commence à être
compliqué. Ça pourrait se dire.
Oui, c'est peut-être un néologisme. Enfin, il y a un petit peu de tout.
Nous allons nous plonger dans cet univers-là avec, à la fin de l'émission, un petit portrait d'un showman qui faisait sa première apparition en Suisse en 1995, Anthony Cavana. Voici donc l'humour francophone de l'autre rive de l'Atlantique, le cinquième épisode de nos archives du rire. Mais cette émission ne pouvait pas commencer sans le portrait du clown seul, Marc Favreau, dans la vie. Il fait ses études à l'Académie Kerbe d'Outremont et à l'Université Sir George William à Montréal. Son diplôme en poche, il veut se diriger vers la réalisation de décors de théâtre. En 1950, il commence sa carrière de comédien au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, dans Don Juan de Molière. À partir de 58, après un séjour à Paris, il obtient le rôle de Sol dans l'émission La Boîte à Surprises de Radio-Canada. Il fera partie de plusieurs duos de clowns, Bim et Sol, Sol et Bouton, Sol et Biscuit. Et de 63 à 67, Marc Favreau incarne également le rôle de Berlingot dans Les Croquignoles. De 68 à 71, il va reprendre son rôle de Sol dans la série Sol et Gobelet. Dans les années suivantes, soit sur une période de 30 ans, il va reprendre le personnage de Sol sur différentes scènes à travers toute la francophonie.
Les archives du rire.
La vie d'une couleur, tiens, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi la vie d'une couleur. D'abord, c'est pas toujours drôle la vie d'une couleur, c'est pas toujours rose. Par exemple, tiens, quand elle est toute petite la couleur, la première chose qu'on lui fait quand elle est toute petite, on l'emprisouille, la couleur, dans un tube. Ou bien dans un pot. Toute seule, jamais deux couleurs ensemble. Elles se connaissent pas encore, les couleurs, elles peuvent pas encore se voir en peinture.
J'ai commencé comme comédien professionnel en 1953 exactement. Bon, et après avoir fait mes classes, comme tout le monde. Et puis, bon, j'ai joué toutes sortes de rôles. Et puis, j'ai décroché un contrat à la télé à Montréal, un contrat avec un camarade pour un tandem de clowns qui travaille aux heures, aux écoutes jeunesse. Bon, et ça a duré 14 ans.
Mais là, vous aviez déjà la redingote que vous avez, aujourd'hui.
Non, c'est exactement le même personnage, à tout point de vue. Oui. Maquillage, costume, sa silhouette physique et sa silhouette mentale, psychologique aussi.
Mais c'est donc un personnage qui vous a marqué. Est-ce que c'est un personnage que vous avez découvert même avant? Est-ce qu'il y avait, quand vous étiez jeune, des personnages, des clowns qui vous ont particulièrement fasciné?
Non, pas des clowns qui m'ont fasciné quand j'étais jeune. Moi, j'étais surtout à l'époque où on allait au cinéma muet avec... avoir des Charlots et des Buster Keaton et tous ces gens, c'est, pour moi c'est ça, c'est pareil, c'est... Bon, ça m'a marqué, ça m'a influencé, bien sûr.
Et un jour, tout à coup, par hasard, l'artiste se réveillonne, il dit comme ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit, mais on n'a pas le droit de garder les couleurs en prison. Il n'y a qu'à voir le monde est grisonnant, triste et mélancolorique. Faut faire quelque chose, fini les idées noires, qu'il dit l'artiste. Et là, le grand automatiste devient fauvettre. Il écrabouine les tubes. Il déboussole les pots. Il libérationne les couleurs. Il les tartine sur une belle toile très impressionnisée. Il faut les voir. C'est là qu'il faut les voir, les couleurs. Elles sont contentes. Elles sont heureuses. Elles se laissent aller. Elles se soulagent. Elles se mésangent. Elles deviennent furieusement braques. Oh, elle se laisse aller, elle se condimentationne et se superpositionne un peu partout arc-en-cielement sur la toile. Ça vermillonne, ça vermillonne. Le rouge gorge le noir de son carmin d'igo et chauffe le violet qui fond et se guimauve.
Il n'y a que Sol qui a ce vocabulaire, parce que vous réinventez un vocabulaire, vous réinventez les mots. C'est une des choses qui fait la personnalité de Sol.
Ouais, puis on me demande souvent, mais alors pourquoi vous ne l'avez pas fait en vous détachant de ce personnage d'Auguste? J'ai dit non, moi, étant donné qu'il avait déjà une défroque d'Auguste, c'est-à-dire de pauvre type, c'est une caricature à peine démarquée du quotidien, hein,
pas, à peine, dites-vous.
Ah ben, c'est-à-dire que si on gomme le maquillage un temps soit peu, on pourrait presque le rencontrer dans la rue. Donc il y a une silhouette qui est précieuse pour moi, avec son grand manteau rapiécé, sa poubelle. Il soliloque, comme il y en a plein de gens qui soliloquent dans les rues, des clodos qui soliloquent aussi. Il raconte ce qu'il voit, par où il dit. Et surtout, il a une mentalité à lui, c'est-à-dire, il voit les choses d'une façon totalement enfantine et conséquemment, il le dit d'une façon spéciale. Il raconte tout ce qui lui arrive, tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il voit, qui l'obsède, tout ce qui le fait rire, qui l'énerve, qui lui fait peur aussi, qui l'angoisse. Il raconte cela. Hein, et ça peut aller très loin, c'est la politique, le monde, il se met en situation, et il suppose que, si j'étais un patron, et ça va jusqu'à la tyrannie, et tout ça, il invente, comme un enfant fait de la même manière. Hein. Oui. Mais, et c'est tout aussi simple que ça. Oui. Mais c'est pour ça que c'est important de lui avoir gardé cette silhouette d'extraterrestre. On ne risque pas vraiment de le rencontrer dans la rue. Il y a un langage spécial, un esprit un peu spécial, et puis, bon, cette silhouette aussi.
Qu'est-ce qui est important, c'est de faire l'enfant, hein? C'est ça qui est important. Quand on est petit, on nous dit toujours la même chose. Bon, t'es assez grand, finis de faire l'enfant. Ça suffit, finis de faire l'enfant. Non, eh oh, on entend toujours ça, finis de faire l'enfant. Moi, je veux bien. Mais alors, si on ne peut pas faire l'enfant quand on est petit, il faudrait peut-être commencer à le faire quand on est grand. Il faut faire l'enfant. Il y a des parents, je ne les comprends pas. Il y a des parents, c'est fou. Ils se promènent avec leur petit bébé, tout fier, tout content. Mais oui, c'est lui, c'est notre petit bébé. Mais oui. Oui, on en est fier. C'est notre petit dernier. Il n'y a pas de quoi être fier si c'est le dernier. Non, moi j'ai dit, il faut faire l'enfant, si on veut que ça change. Hein? Parce que bon, quand on est tout petit, quand on arrive, on est minuscule, on vient d'arriver, on connaît rien, on ne sait pas. On ne sait rien encore. On est là, on arrive, on fait son entrée, mais c'est une entrée en matière. Hein? On est au courant de rien, les affaires des grands, sans consensus le pouce.
Sol meurt d'un cancer le 17 décembre 2005 à l'âge de 76 ans à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Une bibliothèque porte son nom et il a été membre de l'Ordre des francophones d'Amérique.
Les archives du rire.
L'humour fait véritablement partie de la culture québécoise. Et vous allez entendre ici les jeunes humoristes d'outre-Atlantique souvent issus de l'école Juste pour rire. Peut-être que Michel Courtemanche vous rappelle encore quelque chose, et surtout Anthony Cavana, que nous avions rencontré à Montreux lors de sa première apparition en Suisse. Dire que maintenant, Anthony Cavana habite ici. Mais avant de les entendre, nous allons nous intéresser à ce phénomène important au Québec et à Montréal, le festival Juste pour rire. Qui est bien plus qu'un festival, c'est une école et un musée du rire. Rencontre avec Max Cerveau en 1993, qui était le représentant en Europe pour cette grande machine Juste pour rire. On parlait avec lui de cette entreprise bilingue français-anglais.
Oui, mais je crois que chaque festival a sa particularité. Bon, Montréal a, de ce point de vue-là, beaucoup de chance parce que c'est une grande capitale internationale. Ensuite, c'est une ville bilingue. Et ce qui explique que le festival est à la fois anglophone et francophone. Mmh. Et donc, je pense que chaque ville, chaque pays, chaque festival a une nature propre. Et c'est de cette différence que naît l'intérêt à la fois pour les artistes, pour les festivaliers, les organisateurs. Et de là, bon, est venue dans un premier temps une programmation. Ensuite, est venue une école du rire. Après, est venue toutes les productions télévisuelles et avec un réseau très, très important de diffusion, puisque la nature bilingue du festival nous permet à la fois de diffuser en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, et puis également en France, Suisse, Belgique.
L'École du Rire est en rapport direct avec ce festival ?
Bien sûr. Oui. Il y a non seulement une École du Rire, et puis il y a tout un travail de dépistage, entre guillemets, puisque en accord avec les écoles de Montréal, il y a 4000 enfants qui, chaque année, doivent écrire des textes ou présenter, c'est dans leur programme et en accord avec le festival, doivent écrire des textes et présenter des petits spectacles. Alors ça, c'est le premier axe pédagogique. Le deuxième axe pédagogique, c'est qu'il y a tout un travail d'audition à travers le Québec pour savoir quels seraient les meilleurs comiques de la promotion 92, et comme il y a eu 91. Et puis, ensuite, en formation, il y a une promotion d'une dizaine de 10-12 élèves qui, pendant un an, sont formés. Et de cette école, par exemple, sort Michel Courtemanche, que vous allez voir ce soir.
Michel Courtemanche, une tête élastique comme sortie de comics ou de dessins animés de Tex Avery. Son humour visuel a tout de suite marqué les Européens. Michel Courtemanche.
En fait, je crois que c'est ça qui est arrivé quand j'ai commencé, quand je démarrais à Paris, quand j'étais au Palais des Glaces et au Musée Grévin. Il y avait beaucoup de spectacles qui se passaient autour, mais j'étais le seul qui justement ne parlait pas. Puis je pense que les Parisiens, je pense que c'est ça qui a attiré l'attention des Parisiens. Mm-hmm. Le fait qu'il n'y ait pas de texte dans le spectacle, puis qu'il n'y a ni improvisation, ni comme on dit chez nous, du stand-up comedy. Mm-hmm. Donc je pense que c'est par le silence que ça tranchait un peu à travers tous ceux qui faisaient des spectacles à Paris. Puis, comme j'avais pas beaucoup d'adaptations à faire, ça a été un succès qui a été quand même assez rapide.
Donc, l'humour québécois nous est parvenu notamment par le biais du festival Juste pour rire à Montréal. Des milliers d'heures de spectacles et d'images pour la télévision. Une grande entreprise présidée par Andy Nullman et initiée par Gilbert Rozon, le juré de La Nouvelle Star. Oui, oui, on l'avait rencontré bien avant cette émission de télévision. Gilbert Rozon, passionné de spectacles et d'humour.
Jusqu'à un certain point, oui, je ne peux pas dire ni Andy et moi sommes des gens vraiment passionnés par l'humour, mais on avait fait une vaste étude de marché avec à peu près 2000 répondants au niveau international et on s'était rendu compte que l'humour était devenu un besoin vital. Oui,
mais ça, c'était l'humour ou macramé. Nous avons choisi l'humour parce que macramé, le merchandising, c'est très limité dans le macramé. Avec l'humour, tu peux avoir au moins des casquettes et tu peux avoir des casquettes en macramé.
On était des très mauvais artistes de scène, Andy et moi, on peut dire ça. Et alors, on a préféré aller à l'arrière-scène et faire quelque chose qui rend hommage aux artistes ou qui leur facilite la vie, quoi. Mm-hmm. Et l'humour, le Québec s'y prête bien parce que c'est quand même un peu une terre perdue, c'est le bout du monde. Les Français sont venus nous coloniser. C'est ça, ils nous ont laissé là il y a 300-400 ans, et puis on a essayé de résister à l'Amérique, aux États-Unis, à Andy et moi. Donc nous sommes fait forts de bâtir un festival qui pourrait être le reflet de probablement des pays les plus drôles au monde, le Québec. On a des structures très précises au Festival Juste pour rire où là, vraiment, c'est une décision artistique. Quand on fait un gala, bien évidemment, on essaie que le spectacle comme tel, l'émission de télévision qui en est tirée, ce soit une proposition artistique. Mais il y a d'autres endroits où on prend des risques. On le dit d'ailleurs au public, c'est vraiment, c'est casse-gueule, c'est comme ça que ça doit être. Mm-hmm. Sinon,
c'est ça le festival.
Ben oui, c'est un peu ça, mais vous savez, je n'aurais peut-être pas parlé comme ça il y a 3 ans, ni il y a 10 ans, ni il y a 5 ans. C'est vrai qu'on en a fait tellement d'histoires, on a dû présenter 5 000-6 000 spectacles dans ces 13 années-là. On a fait des milliers d'heures de télévision.
Les entrées sont bons.
On a vu beaucoup d'artistes et on est toujours heureux de trouver des nouvelles idées et de voir évoluer ça, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se font d'elles-mêmes aussi. Il faut faire confiance. Moi, il y a des artistes que j'aurais jamais cru qu'ils deviennent aussi bons qu'ils sont aujourd'hui, et il faut avoir l'humilité aussi d'accepter de se tromper. Mm-hmm. Donc, finalement, ce que je vous dis, c'est qu'on est face. On n'est pas très bon. On est surtout chanceux d'avoir dirigé ce festival-là. On est, Andy et moi, sinon, je ne sais pas, on serait peut-être des clocheurs. On n'était pas... on n'avait pas un talent particulier. On a juste été là au bon moment. Mm-hmm. C'était une chance exceptionnelle, quoi.
Oui, on peut être peut-être... on peut travailler à une poste de radio pour faire des entrevues sur l'humour.
Bonsoir. Vas-y, écoute.
Au début des années 90, on rencontre François Massicotte, issu de l'école Juste pour rire. La spécialité de François Massicotte, le stand-up.
Hey! Salut! Bonsoir! Je me présente, je m'appelle François, mais les filles m'appellent. Pas souvent.
J'ai toujours une passion pour les gens qui me faisaient rire. Et comme j'avais pas d'amis, j'ai trouvé le moyen de me trouver des amis. C'est en comptant des blagues. Ah, là, j'ai vu tout de suite qu'en comptant une blague, tout le monde venait voir, oh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, oh. Là, il voyait les gens rire, donc ça attirait les gens. Et là, j'avais toujours une blague différente à chaque jour. Donc, à chaque jour, il y avait plus de monde qui venait voir, c'est quoi ta blague aujourd'hui? Donc, je me faisais des amis. Oui. Alors, ça continue, mais encore aujourd'hui. Oui. Vous êtes des amis en Suisse maintenant, avec mes blagues.
Mais ça vaut la peine, la Suisse! Ah oui, les montagnes, le lac, les bancos. Wow. Ah, la Suisse, le seul pays au monde où les sans-abri habitent des appartements 8,5 avec garage double. Ouais.
Au collège où j'étais, il y a eu un concours des arts de la scène. Alors, j'ai participé. J'avais un numéro où je déconnais sur un piano. Je faisais du mime. J'avais une grosse perruque avec un tuxedo. Et puis, moi, je sais pas jouer du piano. Alors, ce que je faisais, c'est que je plaçais des revues entre les marteaux et les cordes du piano. Et j'avais une bande sonore d'André Gagnon qui joue du piano. Et moi, je mimais. Une sorte de grimace. Bon, je déconnais là-dessus. Mais c'est avec ça que j'ai participé à d'autres concours. Puis là, je suis entré à l'École nationale de l'humour. Et c'est là que ça a tout commencé au point de vue professionnel, là, de lâcher les études pour aller changer de programme, c'est-à-dire d'aller à l'École nationale de l'humour.
Il y a une École nationale de l'humour à Québec?
Oui, à Montréal. C'est une première mondiale. J'étais un des cobayes. C'est un stage de 6 mois avec 12 humoristes où on apprend à définir notre style. On essaie beaucoup de choses. On va essayer de faire du mime, on va faire des imitations, des personnages, du monologue. On doit présenter un numéro nouveau à chaque vendredi matin. On a des cours d'écriture, des cours de voix, des cours de gestuelle, toutes sortes de choses. Mais la chose importante à l'École nationale de l'humour, c'est qu'on est réunis avec d'autres humoristes. Ce qui est pour la première fois pour tout le monde, puisqu'avant, on travaillait seul dans notre chambre à essayer de penser à des choses comiques. Alors là, on est réunis, on peut en parler.
Mais le sport le plus ridicule, devinez c'est lequel. Devinez. Le sport le plus ridicule. Le hockey. Parce qu'on a perdu. Hein? Non. Bon, devinez lequel.
Le sumo.
Le sumo. Ah non. Ils ressemblent tous à des Québécois en Floride. Hein, les... Non! Le sport le plus ridicule, c'est la marche rapide. Juste le mot « marche rapide ». C'est comme un concours pour savoir qui va chuchoter le plus fort.
En 94, on découvre également Martin Petit.
En arrivant ici, j'ai remarqué qu'il y a... Bon, évidemment, vous allez vous en apercevoir, il y a des différences au niveau du langage. C'est déjà fait. Non, par exemple, ce qui m'a marqué, moi, c'est que des enfants ici, vous avez laissé ça des gosses. Et bon, pour nous, au Québec, des gosses, c'est plutôt les deux petits trucs qui, chez l'homme, servent à faire des enfants, vous voyez?
Oui, on est très proches, les humoristes au Québec, que ce soit Courtemanche, Lemire, François Massicotte, Patrick Huard, on a environ le même... On a environ le même âge. Courtemanche était à l'école avec moi. Michel est à peu près 3 ans plus vieux que moi, tu sais. Donc, on se retrouve souvent au Québec, tu sais. Donc, le fait de partir en avion ensemble, tout ça, c'était bien. Les RBO aussi, tu sais, on est très près.
Parce vous êtes très, très unis, donc...
Oui, parce qu'on est un petit pays oui, aussi, évidemment. Nous aussi. On est une petite communauté francophone. Donc, veux pas, avec le Festival Juste pour rire qu'il y a là-bas, donc, à chaque année, on a au moins une occasion minimum de faire la fête ensemble puis de se parler. Puis,
J'ai remarqué aussi que vous avez une ville qui s'appelle Glan. Et bon, qu'une ville s'appelle Glan, ça va. Mais pour nous, qu'il puisse y avoir des gosses de Glan.
Il y a la nouvelle vague d'humour et la vague qui vient du jeu d'improvisation. Donc, l'improvisation a donné un nouveau souffle à l'humour au Québec en produisant plein de nouveaux humoristes. Donc, Patrick Huard, par exemple, qui était là aussi, qui on s'est connu avant de faire de l'humour, en s'affrontant en impro. Donc, c'est cette idée-là, l'espèce d'idée de faire de l'impro qui veut, sans le vouloir, elle est visuelle, tu sais. Donc, les Bizarroïdes à 4, on fait un peu du visuel aussi, assez international. Donc, on s'occupe moins du langage parlé, puis on se lance dans un langage qui est international, tu sais. Donc, c'est une autre forme de travail. Moi, seul en stand-up, oui, je vais parler, je vais faire des blagues, tout ça, mais essentiellement, notre travail est corporel, tu sais. Donc, c'est plaisant pour ça. Sans copier Courtemanche juste du tout, on fait vraiment pas la même chose. C'est complètement différent ce qu'on fait. Mais il y a une familiarité du fait que on a tous les mêmes influences, tu sais. Des gars comme Claude Legault au Québec, Robert Gravel, tout ça. C'est les mêmes gens qui nous ont influencés. Ça. Donc, veux, veux pas, là, il y a comme, on est un peu frères de sang.
T'es-tu prête à intégrer?
Et qu'on est sous
Bruno.
Je suis gros, mais on ne m'a pas cru.
Je suis cru, mais on ne m'a pas gros.
Chantal.
Je pétille d'impatience.
Yves.
Écoutez, prudemment.
OK, RBO. Ah ouais!
Rock et belle.
Et dans les groupes comiques faisant les fous sur scène, à la radio et à la télévision, il y avait RBO, Rock et Belles Oreilles, que l'on pouvait comparer à ce que représentaient les Inconnus ou les Nuls en France.
Y a un parallèle entre les Inconnus, les Nuls, RBO. Mais je pense que ça va plus loin que ça, c'est que de toute façon, la télévision a pris beaucoup d'essor depuis quelques années, puis je pense qu'il doit y avoir des RBO, des Rock et Belles Oreilles ou des Nuls ou des Inconnus dans la plupart des pays occidentaux. Puis on est tous influencés à peu près par les mêmes choses, la politique, les médias, etc.
Monsieur Gratien Gélinas, homme de théâtre, nous parle du Canada.
En tant que vieux has-been bourré de médicaments par vos bons soins, ma vision du Canada s'éclaircit. J'y vois un paradis où gambadent des éléphants roses, des gens d'Edmonton qui me tendent la main et des homards de Halifax qui assistent à mes fridolinades. C'est très joli et je reprendrai de ces pilules n'importe quand.
Monsieur Gratien Gélinas lance ce cri d'espoir à ses concitoyens.
Hé, les vieux, tant qu'on va rester dans le Canada, les pilules vont être gratis.
Monsieur Gratien Gélinas donnait son avis sur le Canada dans le cadre d'une légère intervention chirurgicale dans la région du cerveau.
Canada, savoir survivre ensemble.
Comment ça se passe exactement? Parce que vous êtes en équipe, vous êtes 5 RBO. Comment est-ce que vous allez créer un spectacle ou un sketch ou une parodie?
Moi, je suis responsable de la ponctuation. Alors, tout ce qui est virgule, point de suspension, point, je mets des points, des deux points, etc. Ça, c'est moi le responsable de ça et j'aimerais en prendre tout le crédit.
Moi, c'est l'orthographe. Je corrige les fautes d'orthographe. Malheureusement, je corrige les fautes d'orthographe des idées des autres. Mais on a un fonctionnement extrêmement démocratique, comme par exemple, pour l'entrevue d'aujourd'hui, on a fait un tirage au sort pour déterminer qui allait faire l'entrevue.
Sur qui ça allait tomber.
Et c'est nous qui avons perdu.
Ouais. Ah oui, c'est ça.
C'est le temps de chanter, le temps de s'amuser. Il se passe quelque chose de louche, c'est le bouche à bouche.
Oui, c'est le bouche à bouche. Tout le monde fait le bouche à bouche. Tu prends du scap et tu le débouches.
Et enfin, Anthony Cavana, showman, imitateur, chanteur, comique, homme de radio et de télévision, un touche-à-tout explosif, un boulimique de la scène, il voulait déjà tout en 1995. À Montreux, il faisait sa première prestation en Suisse et nous découvrons ce jeune caméléon du riz.
Ça va faire 6 ans que je fais ce métier, puis j'ai appris sur le tas, comme on dit. J'ai commencé à 19 ans. Mm-hmm. En fait, le 12 juillet, ça va faire 6 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le 12 juillet? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
J'ai commencé ma carrière professionnelle, entre guillemets, le 12 juillet. Mm-hmm. C'était ma première télé au Canada. Oui. La première fois que... Bon, j'avais signé un contrat de management oui. avec une agence juste pour rire.
Ah, oui.
Et... C'est là que tout a commencé. J'avais gagné un concours qui s'appelle les auditions juste pour rire. Un concours qui chaque année, essaie de trouver le meilleur jeune humoriste. Mm-hmm. Puis j'avais gagné cette année-là, en 89. Alors on gagnait 2 000 $ et une place au Festival Juste pour rire.
Je suis vraiment très heureux de présenter Anthony Cavana parce que j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années au Québec. Et j'ai vu la carrière d'Anthony Cavana se développer pour devenir maintenant une grande vedette à la fois de la scène, de la télévision, de la radio. Et je pense que c'est vraiment un phénomène de la scène. Vous allez pouvoir apprécier tout l'éventail de son talent. Je laisse donc la place à Anthony Cavana. Anthony.
Très content d'être ici ce soir grâce au merveilleux monde du show business, celui qui, d'après certains, m'a transformé en être humain. C'est vrai, au Québec, je fais beaucoup de télévision et d'après plusieurs personnes, le show business m'a transformé en être humain. C'est vrai, quand j'ai commencé, les gens disaient « Hey, regarde, c'est le nègre à la télévision! » Après un temps, c'était « Hey, regarde, c'est le noir dans l'émission d'humour! » Maintenant, quand je me promène en auto avec mes amis, c'est « Hey, regarde, c'est Anthony Cavana! » Avec 3 nègres.
Alors, je veux toucher à tout. J'aimerais faire du cinéma à long terme, c'est un de mes buts. Le one-man show, le cinéma. J'ai fait de la radio au Canada, j'ai animé un talk show. J'ai un jour peut-être du théâtre, on ne sait jamais.
Vous êtes beaucoup sur la liste. Vous êtes beaucoup à vouloir mener une carrière telle que l'a fait Sammy Davis Jr. ou Bill Cosby ou d'autres gens. La sélection est difficile.
Tout à fait. Très difficile, mais... Il faut seulement avoir du talent, il faut aussi avoir une bonne équipe pour nous aider, nous appuyer. Puis il faut être très bien encadré. Jusqu'à maintenant, je suis bien encadré. J'ai mon gérant, Marc Boilard, directeur technique, qui est à côté ici, associé de Marc, qui m'appuie chaque jour. Je travaille avec un auteur, on écrit ensemble mon matériel en français et en anglais. Et j'ai aussi la détermination, l'ambition. Il faut beaucoup d'ambition. Et il faut de la chance.
Dans une relation qui dure depuis longtemps, on sent tout de suite quand la femme s'attend à ce qu'il y ait une demande en mariage aussi. Hein. Sabine, veux-tu... Oui! Oui! Me passer le sel, s'il te plaît.
À 14 ans, j'ai décidé que c'est ce que j'allais faire. À 14 ans, j'ai participé à un spectacle étudiant à mon école secondaire, mon lycée, comme vous dites. Et c'est mes amis qui m'ont poussé à participer. Ils m'ont dit « Allez, vas-y. » Bon, j'étais très gêné. Je suis allé sur scène. J'ai imité des professeurs, j'ai imité d'autres artistes. J'ai même imité, bon, justement, Michael Jackson, qui était la plus grande vedette sur la planète à cette époque, en 84. Et la réaction fut phénoménale. Du jour au lendemain, tout le monde à l'école me connaissait. C'est incroyable. Le feeling sur scène, j'avais jamais vécu ça. Et je me suis dit, en sortant de la scène, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Mm-hmm. Voilà. Je dis, je serais seulement heureux si je fais ce métier-là.
Oui. Donc, vous êtes heureux.
Et à chaque fois que je me donne un but, je l'atteins. Aussi. Mm-hmm. Je fais tout pour l'atteindre, je me dis, bon, je fais ça.
Les archives du rire.
Anthony Cavana, lors de ses premières scènes en Suisse, pour refermer les archives du rire pour cette 5e page. Vous avez entendu dans cette émission Sol, Max Cerveau, Michel Courtemanche, Gilbert Rozon, Andy Nolman, François Massicotte, Martin Petit, les Rocs et Belles Oreilles et Anthony Cavana. Les rencontres ont été faites à Montreux et à Morges entre 1992 et 1995. L'émission et quelques bonus sont déjà sur la page des Archives du Rire. Au revoir et à bientôt.
Kiss. Merci, bonsoir.